BFM Business, BFM Crypto, le club.
C'est votre complément crypto. Désormais quotidien, on apporte chaque jour, on arpente chaque jour vers 16h30. L'autre flanc de la montagne, cet autre flanc qui attire à son tour la lumière de plus en plus. La finance liée au blockchain, au Web3 qui émerge, à la finance décentralisée. Nos trois experts aujourd'hui pour nous accompagner jusqu'à quasiment 17h. Rodolphe Stéphan, bonjour Rodolphe.
Bonjour Guillaume.
Trader
bonjour
associé pour TradingView France. Bienvenue Rodolphe sur BFM Business. On est ravis de vous accueillir. Jérôme Ashdenbaum vient aussi de nous rejoindre. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Vice-président en charge des crypto-monnaies chez Idemia et auteur de ce livre paru il y a quelques mois, La guerre des crypto-monnaies. Raphaël Bloch nous accompagne aussi et nous accompagnera très régulièrement. Bonjour Raphaël.
Bonjour Guillaume.
Journaliste, cofondateur du nouveau média crypto The Big Whale. On va parler dans un instant de votre scoop du jour. Il semble que la baleine grossisse, Raphaël.
Exactement.
D'ores et déjà. Grosse baleine. Les cours n'attendent pas. On va démarrer avec vous, Rodolphe, pour évoquer en effet le cours des différentes cryptos. C'est désormais notre promesse quotidienne sur BFM Business. On va démarrer avec les reines des cryptos, bien évidemment. On pense à Bitcoin et à Ether. D'un point de vue volatilité, quand vous regardez les cryptos sous l'angle des cours, mais aussi l'évolution de leur volatilité, Rodolphe, de leur maturité aussi, est-ce que certains signaux vous interpellent en ce moment ?
Alors tout à fait Guillaume, mais je voudrais revenir sur un indice dont personne parle vraiment. On a l'impression que tout le temps quand on écoute, les cryptos sont très volatiles. Et si vous regardez le CVI, grosso modo c'est l'indice de volatilité des crypto-monnaies que vous retrouvez également sur, comme sur les autres indices, on voit qu'il cote actuellement autour des 63, il était encore à 69-70 il y a quelques jours, et il se dirige progressivement vers une zone planchée horizontale qui correspond grosso modo à un gros support autour des 60 qui est en place depuis 3 ans. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que normalement, les crypto-monnaies, le CVI évolue plutôt entre 75 et 90, avec des pointes en période euphorique ou même en période de stress autour des 150. Et en fait, on voit à travers cet indice que cette volatilité des crypto-monnaies est en fait en train de vivre un net affaiblissement. Et donc, toute la claque d'actifs des crypto-monnaies s'affaiblit en termes de volatilité. Et les majeurs, que ce soit l'Ethereum, le Bitcoin, n'échappe pas à cette réduction de la volatilité. Et quand bien même on pensait qu'elles allaient peut-être subir de plein fouet à la fois le conflit géopolitique, à la fois les prévisions de resserrement monétaire et quand bien même un environnement macroéconomique incertain, on voit que ces majeurs ont été à la fois hermétiques et imperméables à tous ces éléments extérieurs. On a donc ici la preuve, à travers ce CVI, qui se rapproche de cette zone planchée, d'une certaine maturité du marché des crypto-monnaies. Il est en train, grosso modo, de passer son passage à l'adolescence avec la mise en place d'une stabilité progressive, mais surtout le développement indéniable, on le voit, de la confiance des institutionnels. Alors, quand passerons-nous à l'adoption totale ? Je n'en sais rien. Quand, où, comment et pourquoi ? Je pense que personne ne le sait, mais on voit qu'on dirige progressivement vers une adoption plus grande de ce marché des crypto-monnaies. Et moi, tout ce que je vois personnellement, quand bien même on a des soubresauts à la fois à la hausse, à la fois à la baisse, qui sont brusques, erratiques, depuis 18 mois, la tendance long terme sur ce marché des crypto-monnaies reste largement positive.
Bon, et de moins en moins volatile, des signaux d'adolescence qui donneront des boutons, en l'occurrence, à certains investisseurs en quête de volatilité sur les cryptos. Bon, crypto qui reste quand même plus volatile, bien sûr, que beaucoup d'autres actifs. D'un point de vue technique, on regarde le Bitcoin, là, en direct, on est à 42 564 $, Rodolphe, Ether à 3 149. Techniquement, quelle est la tendance de fond et pourquoi varie-t-on toujours dans la même fourchette depuis maintenant un certain temps ?
Alors, comme vous le dites, Guillaume, on évolue dans un range, d'accord ? À chaque coup qu'on arrive en haut de ce range, il ne faut pas tomber dans l'euphorie à chaque coup que certaines cryptos comme l'Ether ou le Bitcoin prennent 15-20%. Et à l'inverse, il ne faut pas paniquer quand elles reviennent sur les supports majeurs clés. C'est ainsi, en fait, que les mains fortes, on a l'impression qu'elles accumulent sur ces bas de range, pendant que les mains faibles, qui à la fois sont trop exposées ou utilisent trop de leviers, crack. Mais ce qu'il faut bien comprendre, avant l'utilisation pour se placer de ces ranges, il faut toujours déterminer la tendance long terme mensuelle primaire. Qu'est-ce que j'appelle la tendance primaire ? C'est-à-dire la tendance mensuelle précédente. Et on s'aperçoit que depuis 18 mois, quoi qu'on en dise, cette tendance primaire mensuelle reste positive. Et donc, en fait, il faut se servir de ces ranges. Vous l'avez dit, ces ranges, c'est grosso modo sur le Bitcoin 35-45 000 et sur l'Ether 2005-3005 pour faire des bornes larges. Et en fait, au lieu de céder à la panique quand on revient sur les bas de range, c'est là où il faut se positionner à l'achat sur ces bas de range dans le sens de cette mensuelle primaire haussière. Et tant qu'on n'a pas d'éléments techniques et graphiques qui viennent inquiéter cette tendance long terme mensuelle, alors il n'y a aucune raison de ne pas se placer à chaque repli sur ces crypto-monnaies. Et donc, il est clair et net pour moi que ça soit sur l'Ethereum ou le Bitcoin, alors moi je préfère l'Ether, mais après c'est qu'un sentiment personnel, je me place à l'achat sur chaque repli. On a eu un repli relativement important autour des 2 880 $ il y a quelques jours. Là, il est remonté vers les 3 150, mais il n'y a aucune raison qu'il ne se dirige pas à nouveau vers le haut de son range. Donc, je continue d'acheter le moindre repli sur ces crypto-monnaies, notamment sur les majeures. Il faut bien comprendre quelque chose, quand vous avez un range qui se détermine pendant de longues semaines, comme on est en train de vivre, dans le sens d'une tendance long terme haussière mensuelle, vous avez une probabilité nettement plus importante que les cours sortent par le haut de ce range que par le bas. Donc, c'est pour ça que je vais toujours privilégier la tendance primaire qui est haussière et donc privilégier les achats. Et par contre, sur les hauts de range, je peux également alléger ces achats pour les reprendre plus bas. Mais techniquement, tactiquement, je pense que la stratégie reste toujours la même et de continuer, quand bien même parfois ça fait peur, parce qu'il y a des moments de stress, il faut continuer d'acheter ces crypto-monnaies à au moindre repli.
Voilà, pour ceux qui veulent vraiment diversifier leur placement, on rappelle qu'il faut investir en crypto, que l'argent qu'on est prêt à perdre, ça on le répète à chaque fois sur BFM Business, et on est dans l'ultra diversification de patrimoine. Tout ça reste bien sûr très spéculatif et volatile. Rodolphe Stéphan pour TradingView nous accompagne, un nom que vous entendrez de plus en plus souvent, on l'espère, sur BFM Business. On est, Rodolphe, assez gourmand, comme nos auditeurs et téléspectateurs, gourmand de découvrir de nouvelles cryptos, quand même des grosses cryptos, mais qui, dans cet univers des grosses cryptos, peut-être font moins parler d'elles auprès du très grand public. Est-ce que vous pouvez nous en prêter en une ou deux, je ne sais pas, enfin au moins une, qui à vos yeux présente un intérêt. Ouais.
Alors Guillaume, je vais réinsister, comme tu viens de le faire, sur l'avertissement. C'est vraiment important de miser sur ces investissements spéculatifs que l'argent qu'on est prêt à perdre. Il faut savoir que ça reste des mouvements très volatiles, très brusques, et donc il faut miser qu'une partie qu'on n'a pas besoin, notamment au quotidien. Alors moi, je tiens à vous proposer, parce que pour l'instant, on est dans des ranges, mais il faut bien comprendre qu'il va y avoir à un moment ou à un autre des nouveaux catalyseurs. Quel sera le nouveau catalyseur? Je n'en sais rien. On sait que depuis 2021, la SEC a refusé deux fois un ETF sur le spot Bitcoin. Je pense qu'un des catalyseurs en 2023 pourrait venir de là, d'un accord de la SEC sur un ETF spot Bitcoin. Et donc, du coup, d'autres crypto-monnaies vont profiter de ce catalyseur et de cet essor. Alors moi, je vais vous en proposer plusieurs ce jour. Donc notamment, je pense qu'il est important de revenir sur les stars 2021, à savoir Atom, EGLD, Solana, surtout EGLD et Solana, qui sont pour moi revenus sur des zones support hebdomadaires intéressantes dans leur sens, dans le sens de la tendance mensuelle toujours haussière. Donc EGLD, se placer autour des 150-160 $ me semble intéressant. Solana, autour des 80-100 $, même si depuis quelques jours, elles ont repris quelques dollars, elles restent intéressantes sur ces supports. Donc voilà, je pense que ça devient intéressant de revenir aujourd'hui sur les stars 2021. Maintenant, graphiquement, je voudrais vous en offrir une dernière que j'apprécie particulièrement parce qu'elle est haussière sur toutes les tendances actuellement, que ce soit journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, c'est NIR, N-E-A-R. Donc NIR, c'est quoi? C'est un protocole et une plateforme d'applications décentralisées conçues pour rendre des applications utilisables sur le web. Cette blockchain, NIR, elle veut optimiser grosso modo l'interaction entre les développeurs et les utilisateurs grand public. Elle veut rendre et faciliter l'utilisation par les utilisateurs finaux de ce que développent ces développeurs. Donc NIR, elle cote actuellement autour des 16 $. Et je vais vous proposer deux tactiques stratégiques pour rentrer. Donc soit vous avez un repli sur les 13-14 $ et qui me semble intéressant en termes de capitalisation, en termes de fondamental et en termes d'avenir, de revenir sur NIR. Si elle ne vous offre pas ce repli, alors je vais attendre que NIR s'installe au-dessus des 20,5 $, pardon, pour re-rentrer sur la crypto-monnaie pour viser 30-35 $ dans les prochaines semaines.
Rodolphe Stéphan avec nous aujourd'hui, TradingView à nos côtés, bien sûr. Vous êtes trader et associé de TradingView. Merci beaucoup, Rodolphe, de nous avoir accompagnés. On vous retrouvera donc régulièrement sur BFM Business sur le potentiel technique des différentes cryptos. Raphaël Bloch nous accompagne toujours. The Big Wave, ce nouveau média consacré aux cryptos. Alors, c'est un peu spécial aujourd'hui puisque vous venez de publier, chapeau à vous et à Grégory Raymond qui vous accompagne, vous venez de publier sur The Big Wave cette longue interview du chef de l'État, Emmanuel Macron. Le candidat Emmanuel Macron, interview autour de la tech, de la souveraineté numérique, la blockchain, le métavers. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette interview, d'ores et déjà, on l'imagine, disponible sur le site The Big Wave?
Oui, exactement, on l'a publié donc tout à l'heure. Si vous voulez, Guillaume, l'idée était assez simple. C'était finalement de mettre bien sur la table, avec le chef de l'État et candidat, des sujets qui, de notre point de vue, n'ont pas été suffisamment couverts pendant la campagne. Et finalement, ce qui fait la spécificité de cette interview, donc qu'on a réalisé avec Grégory Raymond, c'est que le chef de l'État a finalement pris le temps de parler de la tech, qui est quand même un sujet donc très important. C'est sa grosse interview sur ce sujet. On a fait un retour sur son mandat, sur son premier mandat. Donc regardez un peu ce qui avait été fait, ce qui pour lui en fait est un succès, par exemple le développement de la French Tech, des investissements étrangers qui arrivent en France, mais aussi l'idée c'était finalement de voir ce qu'il avait envie de faire pour un potentiel second mandat. Et là, on a été agréablement surpris parce que, au-delà de la vision, il y a aussi des annonces. Hein. Il nous a parlé de choses qu'il avait envie de mettre en place si jamais il était élu lors du second tour.
Alors justement, on va rentrer dans le dur. Les annonces, donc, et cette interview exclusive, qu'est-ce qu'on apprend? Quelles sont les annonces sur ses ambitions, ce qu'il compte mettre en œuvre en France, pourquoi pas à l'échelle européenne, pour développer Web3?
Il y a pas mal de choses. Après, on ne pourra pas toutes les aborder, mais pour vous parler juste des principales, il y a par exemple un dispositif qui a très bien marché au Royaume-Uni, qui a été lancé il y a une dizaine d'années. Donc c'est le dispositif EIS et SEIS, qui permet tout simplement, en fait, à des investisseurs qui, quand ils mettent de l'argent dans une start-up, peuvent dans un premier temps, donc ça c'est le dispositif EIS, en fait, bénéficier d'un abattement en fait fiscal sur leur investissement. Et le deuxième dispositif permet, en cas d'exit dans une entreprise, également de bénéficier d'un abattement fiscal si vous réinvestissez en fait cet argent dans une autre start-up. L'idée en fait de ce dispositif est assez simple. Alors Emmanuel Macron n'a pas précisé s'il avait envie de reprendre un tel quel le dispositif, mais le but c'est vraiment finalement de faire en sorte qu'il y ait encore plus d'argent dans l'écosystème de la French Tech, que ce soit de l'argent qui vienne de l'étranger ou en France, ce qui est un élément important. Sur des sujets aussi qui nous intéressent beaucoup, comme les crypto-actifs, on a pu parler en fait de MiCA, qui est ce règlement qui est en cours de négociation à l'échelle européenne. Le but c'est d'harmoniser la législation dans toute l'Europe. Et finalement, ce qu'il a expliqué, parce qu'aujourd'hui vous êtes au courant, il y a une petite bataille entre certains députés qui voudraient durcir la réglementation et puis les acteurs du secteur qui ont écrit récemment au ministre des Finances de l'UE pour alerter justement sur les conséquences de cette réglementation. Et le chef de l'État a expliqué que pour le coup, l'idée de son point de vue, c'était de trouver le bon équilibre entre une nécessaire réglementation de ces acteurs, mais en même temps une souplesse qui permettrait justement d'éviter que l'Europe soit une nouvelle fois dépassé par, d'un côté, la Chine, de l'autre côté, les États-Unis.
Oui, il vous a semblé être dans le coup, tout simplement, sur ces enjeux.
Oui, c'est ça qui, c'est ça qui est intéressant. Alors après, on doit garder nos distances. Ça reste un candidat. On parlera aussi de Marine Le Pen qui est en face.
Et il s'adresse à votre communauté à quelques jours du second tour.
Voilà. Exactement. Mais si vous voulez, on se souvient tous qu'il a parlé de Startup Nation quand il est arrivé à l'Élysée, que la tech fait quand même partie des éléments sur lesquels il a envie de se distinguer. Et donc voilà, c'était intéressant de le relancer là-dessus. On a aussi parlé du métavers, des NFT, parce qu'il est parlé du métavers européen. Sur les NFT, lui, ce qu'il prône, c'est que la France et l'Europe s'emparent de ces technologies. On en parle beaucoup, mais finalement, les pouvoirs publics n'en font pas énormément. Et donc, dans des secteurs comme la culture, par exemple, le chef de l'État prône le fait que des administrations, comme par exemple la culture, donc poussent les musées à s'emparer de cette thématique et donc créer des jumeaux numériques pour des œuvres et fassent rayonner aussi la culture française.
Hier soir, on a eu le débat de l'entre-deux-tours, justement, auquel participaient Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ces thématiques, la blockchain, les cryptos, le Web3, etc., ont été un tout petit peu abordées ou pas? Et si oui, est-ce que Marine Le Pen a des propositions aussi en la matière?
C'est une très bonne question. En fait, on a évidemment regardé le débat, comme beaucoup de Français, même si on a vu que les chiffres n'avaient pas été excellents, parce qu'on avait cette curiosité. Ils ont parlé de ces sujets technologiques, mais ce qui était très intéressant, c'est que c'était plus quand même sur une dimension défensive. Ce que je veux dire par là, c'est que, et c'est ce qui tranche avec l'interview qu'on publie aujourd'hui, c'est que hier, c'était vraiment, il faut qu'on se protège finalement de la Chine, des États-Unis et des gros acteurs émergents, alors qu'on s'attend aussi quand même à un discours plus offensif. On sait qu'on a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de talents, beaucoup de fonds. Et finalement, on se dit, qu'est-ce que l'Europe attend pour faire émerger des grands champions? Le chef de l'État, dans l'interview, parle de Sora et Ledger, mais il dit aussi, il nous en faut beaucoup plus. Et il annonce également dans l'interview, que en 2030, la France espère, il espère que la France aura plus de 100 licornes. Aujourd'hui, on est à 26. Quand il est arrivé à la tête de l'État, il y en avait 3. Ça peut paraître ambitieux. En même temps, vu la trajectoire, ça peut aussi paraître plutôt cohérent. Et donc, sur Marine Le Pen, ce qui s'est passé, c'est que elle est plus positionnée sur des sujets industriels. Elle aime bien ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher. Et elle a été assez critique en parlant des Google, Facebook, ce qui peut se comprendre. Mais en réalité, nous, ce que l'on pense, c'est que finalement, il faut que l'Europe se positionne là-dessus. Parce que vous aurez des géants technologiques. La question est de savoir si on veut qu'ils soient chinois, américains ou européens.
Oui, et tout est aussi question de marché, bien évidemment, de taille de marché. Comment est-ce que vous expliquez, Raphaël, que le sujet Web3, que tous ces sujets qu'on essaie désormais de mettre aussi en avant, alors chez vous, The Big Whale, et nous, sur BFM Business, désormais aussi au quotidien, que tous ces sujets soient encore assez négligés?
Parce que, premièrement, ce sont des thématiques quand même relativement récentes. Je veux dire, on parle du Bitcoin, des cryptos depuis moins de 10 ans. Je ne parle même pas de tout ce qui est NFT, métavers. On voit bien que la French Tech, le label a été créé il y a 10 ans, mais ça a mis du temps pour justement émerger. Donc en fait, on est sur un trend qui est progressif. On ne peut pas, en un claquement de doigts, faire émerger tout un secteur technologique en Europe. Mais en revanche, il faut se donner les moyens de bâtir cet écosystème. Et donc, on part de loin, les choses progressent, il y a encore des gros défis, et c'est vrai que ça va être assez intéressant de voir ce qui se passera lors des 5 prochaines années.
Alors, Jérôme Ashdenbaum prendra la parole dans un instant. Vous nous expliquerez, Jérôme, que bien sûr, les cryptos, cet univers blockchain doit continuer de se constituer, de pousser, mettre en avant, bien sûr, ses intérêts pour faire en sorte que la réglementation reste suffisamment bienveillante. Mais vous nous l'expliquerez aussi. Cet univers est fait lui-même constitué de batailles, secoué de nombreuses batailles, même une bataille entre crypto-monnaies. Vous nous expliquerez ça dans un instant. Juste avant, dernière question, Raphaël. Pourquoi tout ça est un enjeu énorme et pourquoi l'Europe doit, à vos yeux, se positionner clairement sur cette question?
Je pense que le meilleur exemple, et on l'a vécu tous les deux la semaine dernière quand on a interviewé donc le patron de Binance, qui est la plus grosse plateforme de crypto mondiale, un acteur chinois, c'est que c'est tout bêtement un enjeu à la fois économique, c'est-à-dire que les pays et les régions du monde comme l'Europe ou la France qui seront en mesure d'attirer ces acteurs, gagneront la bataille finalement à la fois économique et technologique. Et puis il y a aussi une question de souveraineté, c'est-à-dire que là on parle d'économie, mais c'est aussi pour les États un enjeu énorme parce que si demain vous avez des champions français ou européens, ça vous met dans une position à l'échelle internationale qui est totalement différente de ce qu'on a vécu ces 20 dernières années avec notamment les fameux GAFAM américains et Washington qui peut faire du soft power et avoir des entreprises très puissantes à l'étranger.
Oui, c'est quelque part une deuxième chance pour l'Europe que ce Web3 émerge.
Exactement, le train repasse.
C'est ça, il ne faudra pas le louper celui-ci. Jérôme, donc vous nous accompagnez aussi. On est ensemble jusqu'à quasiment 17h sur BFM Business, désormais chaque jour, au quotidien. BFM Crypto, le club entre 16h30 et 17h. Jérôme Ashdenbaum, vice-président en charge des crypto-monnaies chez Idemia et auteur de ce livre publié il y a quelques mois, La guerre des crypto-monnaies. À l'instant, Raphaël nous parlait de l'intérêt que les États, les différents pays, ne serait-ce que pour leur souveraineté, pouvaient trouver à essayer de faire émerger de grands acteurs en leur sein. Vous nous dites, oui, sauf que dans cet univers même, il y a des batailles. Et même une guerre des crypto-monnaies, c'est le nom de votre dernier bouquin. Pourquoi parlez-vous de guerre des cryptos et qui en sont les protagonistes si guerre il y a?
Oui, pour faire la transition, c'est politique, tout est politique. Qu'est-ce qui va amener un utilisateur à choisir telle ou telle crypto-monnaie? C'est pas la technologie. C'est ce qu'il y a derrière, la promesse en termes de valeur. C'est beaucoup plus profond. C'est quelle est sa vision du monde, quelle est sa vision politique. Quand Satoshi Nakamoto crée Bitcoin, il y a une vision politique très claire qui est affichée, puisque dans le premier bloc de Bitcoin qu'on peut encore voir, il affiche sa critique de la politique monétaire des États. Donc il y a un message politique affiché. Aucune autorité, donc libertaire, aucune autorité, pas d'intermédiaire. Et il va lancer Bitcoin avec le succès qu'on sait, on en a parlé tout à l'heure sur les cours, un actif recherché, mais pas une monnaie, puisqu'aujourd'hui, presque personne ne paie avec Bitcoin. Donc, il y en a d'autres.
Sauf peut-être Raphaël en face de nous, peut-être.
Pas encore. Ouais. Et pourquoi? Justement, la volatilité dont on parlait. Si je suis payé pouvoir d'achat, si je suis payé le 31 en Bitcoin et qu'entre le 31 et aujourd'hui, il a perdu 25% de sa valeur ou apprécié de 25%, c'est un peu la loterie. Donc, il y a des gens qui vont s'engouffrer, des acteurs privés, qui vont dire la blockchain, c'est génial, et qui vont lancer donc des stablecoins, des monnaies privées. Mais quelque part qui dénature l'ADN, c'est complètement quelque chose d'autre, c'est commercial. Facebook qui a lancé Diem, Ensuite, Facebook qui lance l'IM, les États réagissent, encore une fois, on en a un peu parlé. Facebook qui commence à émettre du dollar, un député européen qui dit on ne va pas laisser Zuckerberg émettre du Zuckerberg dollar. Et donc une réaction à la fois défensive, avec de la réglementation à tout va. On a parlé de MiCA, MiCA qui a été voté le mois dernier. Hein.
Qui n'est pas définitivement adopté.
En commission. Et donc qui est en tout cas restrictif sur les stablecoins. Hein. Je pense que la première axe de MiCA, c'est quand même les stablecoins. Et de manière offensive, en lançant, les États lancent leur monnaie numérique de banque centrale. Donc en fait, on se retrouve avec différents acteurs sur cette guerre des crypto-monnaies.
Mais des acteurs qui peuvent cohabiter ou qui vont forcément se dévorer, ces différents profils de crypto qui ont émergé et qui continuent d'émerger sont compatibles ou forcément il y aura des gagnants, des perdants? Comment est-ce que vous voyez les choses?
Alors moi, je pense qu'ils vont finir par travailler ensemble. Pour l'instant, comme dans tout bon conflit, d'abord on montre les muscles. Donc Bitcoin, encore une fois, est limité un peu par sa volatilité, par son empreinte écologique qui commence à servir handicapé la semaine dernière.
L'image que l'on a de son empreinte écologique, diront certains. Ouais. Voilà. Il peut y avoir un débat là-dessus.
Voilà. Ouais. Mais Wikipédia, qui n'est pas réputée contre l'innovation, la semaine dernière, ils ont dit qu'ils arrêtaient d'accepter des dons en Bitcoin pour cette raison-là. Je pense que Bitcoin va devoir adresser cette question-là. Et les autres crypto-monnaies n'ont évidemment pas ce problème. Du côté de Diem, c'est simple. Puisqu'il a été arrêté, ils n'ont pas eu leurs autorisations. Donc, il a été arrêté et il est mort et enterré.
Oui. Pourquoi il est mort et enterré d'ailleurs? Pourquoi cet échec alors que Facebook était quand même sacrément bien placé pour faire aboutir ce projet-là? C'était peut-être même le mieux placé pour faire aboutir ce profil de projet.
Exactement. C'était le mieux placé parce qu'avec plus de 3,3 milliards d'utilisateurs, il avait la possibilité de créer cette monnaie de l'Internet, de créer ce stablecoin global. Mais d'un autre côté, 3 milliards d'utilisateurs, ça fait peur.
C'est le plus grand pays du monde, oui.
Exactement. Et même en chiffre d'affaires, hein, si on compare le chiffre d'affaires à un PNB, et ça fait peur, et les États, en effet, ont réagi. Et Zuckerberg l'avait compris dès le début, il a dit je comprends qu'on n'ait pas, que tout le monde aimerait que ce soit quelqu'un d'autre qui annonce ce projet. Derrière, bon, c'est ce qui s'est passé, ils n'ont pas eu leurs autorisations. Il y a eu un meeting entre Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, et le patron de la Fed, où elle lui a dit, en gros, tu y vas, mais t'es risques et périls. S'il y a un feu politique derrière, il n'y aura personne pour soutenir. Et le lendemain, il a dit, pas d'autorisation, et Diem était mort.
Mais juste pour rebondir, parce qu'effectivement, moi, je me souviens, j'ai vraiment beaucoup couvert ce sujet. Je me souviens du lancement le 18 juin 2019, hein, l'annonce du lancement de ce qui était donc Libra et qui est devenu Diem. Je pense aussi rétrospectivement qu'ils ont à peu près fait toutes les erreurs qu'il ne fallait pas faire dans le cadre du lancement, c'est-à-dire parler d'une crypto-monnaie dès le départ, alors qu'en réalité, l'intérêt pour Facebook, c'était de garder captifs leurs utilisateurs dans leur écosystème et que finalement, ils pouvaient très bien fonctionner sur effectivement un stablecoin en se disant bah voilà, on va lancer une monnaie sur un panier de devises et ça marchera très bien. Mais effectivement, et j'ai lu votre livre et ce que j'ai trouvé intéressant, même si je n'en partage pas forcément la conclusion d'un point de vue philosophique, hein, j'entends, c'est sur cette guerre et cet affrontement. Alors évidemment, il est trop tôt pour savoir quel standard va s'imposer, mais ce qui est très intéressant à observer aujourd'hui, c'est qu'on voit bien qu'on a plusieurs types de monnaies numériques, que ce soit des crypto-monnaies justement décentralisées ou des actifs totalement centralisés. Et finalement, ça va peut-être déboucher sur une guerre ou alors sur une espèce de paix armée. Enfin, c'est-à-dire que tout le monde cohabitera gentiment et on aura même peut-être plus tard une interopérabilité de ces monnaies à travers les wallets. Moi, je pense que le vrai sujet, finalement, ce sont aussi les wallets. Hein, qui détiendra en fait le pouvoir sur les wallets de demain?
Jérôme, là-dessus?
Oui, tout à fait. Je pense
ça pourrait être l'objet d'un deuxième livre éventuellement.
Voilà, exactement. C'est une bonne idée. Ce qu'on voit, c'est aux États-Unis, l'Europe est beaucoup plus très anti-stablecoin, anti-secteur privé quelque part. Hein. La monnaie privée, ils n'aiment pas trop. Mais aux États-Unis, avec un vrai hiatus politique, les républicains pour les monnaies privées, les démocrates pour les monnaies publiques, on voit que les deux, ils commencent à définir les règles d'interopérabilité, comment les deux pourraient exister, comment réglementer les stablecoins parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, comment ils pourraient avoir accès aux réserves de la Fed. Donc on voit cette convergence arriver. Puis évidemment, il y a la finance décentralisée, la DeFi, où là, c'est vraiment l'innovation, enfin le gros potentiel. C'est plus que la monnaie, c'est toute la finance. Et là, ben, on retrouve toutes nos crypto-monnaies, on retrouve de l'Ether, on retrouve les différents stablecoins centralisés ou décentralisés.
Dans la DeFi.
Dans la DeFi. Et quelque part, je trouve qu'il y a un potentiel considérable que les monnaies numériques de banques centrales ne voient pas. Enfin, les banques centrales n'adressent pas ce sujet, alors que ce serait pour elles une utilisation assez
Vous demandez aux banques centrales de s'intéresser à la finance décentralisée.
C'est possible. Il faut vivre avec son temps.
Raphaël, on peut l'imaginer que ça devienne possible ?
C'est possible. Je pense quand même que, et c'est ce qui fait, alors c'est pareil, ce serait un autre débat, mais sur ce qu'on appelle les monnaies numériques ou alors les stablecoins, enfin monnaies numériques de banques centrales, là, il y aura quand même un énorme sujet. C'est que le cash permet de faire des transactions de manière totalement anonyme. Si je vous donne 10 euros, personne ne saura, à part peut-être Guillaume qui nous verra, et bon, les téléspectateurs, mais je vous ai donné 10 euros. Avec une monnaie numérique de banque centrale, c'est potentiellement aussi la fin, j'allais dire, de l'anonymat pour tout type de transactions.
Alors là, pas forcément, parce que ça revient souvent. Il y a eu un article que vous avez sûrement vu aux États-Unis, que les CBDC, c'est des monnaies numériques de banque centrale, c'était la surveillance à la chinoise et la fin de la démocratie américaine. Bing. Donc, bon, c'est peut-être un peu abusif. Ensuite, sur la protection de la vie privée, il y a des solutions. Et typiquement, chez Idemia, nous, on travaille sur des solutions technologiques qui permettent de donner les clés à la Banque centrale. Si elle veut autoriser un certain montant, et la Banque centrale européenne en a déjà parlé, ils ont parlé de 70 euros, ils n'ont pas dit si c'était par jour, par mois, un montant qui est totalement anonyme pour garder un peu cette capacité du cash sans complètement ouvrir au blanchiment. Il y a des solutions technologiques qu'on développe. Mmh.
Tous les pays avancent sur les cryptos en 10 secondes, ou pas encore tous les pays. Sur les crypto-monnaies, c'est-à-dire de banque centrale, sur les monnaies numériques de banque centrale.
86% des pays, donc c'est à peu près tout le monde. La Chine très en avance.
D'accord.
Et c'est vrai qu'en termes de processus démocratique, ça va un peu plus vite là-bas que dans les démocraties libérales. La Banque centrale européenne discute avec les différents interlocuteurs.
Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. BFM Crypto, le club, Jérôme Ashdenbaum. Et donc ce livre, c'est vrai, passionnant, La guerre des crypto-monnaies, paru il y a quelques mois aux éditions
Maxima.
Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Raphaël Bloch, journaliste et cofondateur avec Grégory Raymond, ce nouveau média crypto qui commence fort, hein, The Big Whale. Interview exclusive à retrouver du président candidat Emmanuel Macron, sa vision des cryptos, de cet univers du Web3 et ses projets, si jamais il était réélu, ses projets pour le secteur en France, donc à retrouver sur The Big Whale. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Dans un instant, retour au marché, le club.